deux femmes. Chapitre 36. Vers la fin d'une après-midi de l'automne 1876, un jeune homme d'aimable apparence sonnait à la porte d'un petit appartement au troisième étage d'une vieille maison romaine. À la servante qui lui ouvrit, française au visage net et simple, et à la mine de femme de chambre, il s'enquit de Madame Merle. Introduit dans un salon minuscule et prié d'indiquer son nom, il répondit « Monsieur Édouard Rosier » et s'assit pour attendre la venue de la maîtresse de maison. Le lecteur n'aura peut-être pas oublié que Monsieur Rosier était un ornement du cercle américain de Paris, et pourra se souvenir aussi qu'il s'était, pendant quelque temps, effacé de l'horizon. Il avait passé une partie de ses hivers successifs à Pau, et, étant homme d'habitude, il aurait pu continuer indéfiniment ses visites annuelles à cette charmante ville, si, au cours de l'été 1876, un incident n'était survenu dans sa vie, pour changer non seulement le cours de ses pensées, mais aussi celui de ses déplacements coutumiers. Il passa un mois dans la Haute-Engadine et rencontra à Saint-Moritz une charmante jeune fille. Il manifesta tout de suite des égards particuliers à cet enfant, qui personnifiait exactement à ses yeux l'ange domestique qu'il cherchait depuis longtemps. N'étant pourtant point homme à précipiter les choses, et pourvu d'une discrétion parfaite, il s'abstint sur le moment de déclarer sa passion. Mais il se dit, en quittant la jeune fille, qui regagnait l'Italie, tandis qu'il se rendait lui-même à Genève, où il avait promis de rejoindre des amis, qu'il souffrirait d'une douleur romantique s'il ne devait jamais la revoir. La plus simple façon de le faire était de se rendre en automne à Rome, où Miss Osmond habitait avec sa famille. Monsieur Rosier entreprit donc son pèlerinage, et parvint le 1er novembre dans la capitale. C'était un voyage agréable, qui pour le jeune homme n'allait pas sans héroïsme. Il s'exposait sans acclimatement aux dangers de l'air romain qui, en novembre, reste notoirement pernicieux. Mais la fortune sourit aux audacieux, et cet aventurier, qui absorbait 3 grains de quinine par jour, n'eut pas de raison avant la fin du mois de déplorer sa témérité. Il avait, jusqu'à un certain point, fait bon usage de son temps, et s'était en vain efforcé de trouver un défaut dans la pâte dont était faite Pensée Osmonde. Elle était admirablement achevée. Elle avait subi les plus fines retouches, c'était vraiment une pièce de choix. Dans ses méditations amoureuses, le jeune homme songeait volontiers à elle comme il eût pu le faire d'une bergère en porcelaine de Dresde. Et en vérité, Miss Osmond avait, dans la fleur de sa jeunesse, un soupçon de rococo que ne pouvait manquer d'apprécier Rosier, dont le goût pour cette forme d'art était prédominant. On aurait pu trouver une preuve de sa prédilection pour les productions d'époque relativement frivoles dans l'attention qu'il accordait au salon de Madame Merle, qui comportait des spécimens de tous les styles, mais était surtout riche en articles des 2 derniers siècles. Il avait vissé un monocle dans l'un de ses orbites, regardé autour de lui et murmuré avec conviction « Par Jupiter, elle a de bien belles choses !» La pièce était petite et très meublée, elle donnait une impression de soie passée et de statuette qu'on risquait de faire choir en bougeant. Rosier se leva et fit, à pas compter, le tour du salon, en se penchant sur des tables chargées de bibelots et sur des coussins brodés d'armes princières. Madame Merle, quand elle entra dans la pièce, le trouva debout devant la cheminée, le nez tout près du grand volant de dentelle qui doublait la garniture de damas. Il le soulevait très délicatement, comme pour en sentir le parfum. « C'est dans l'ancien Venise, dit-elle, un assez beau morceau. Trop beau pour cet usage, vous devriez le porter. » Je me suis laissé dire que vous en aviez de plus beau à Paris à la même place. Oh, moi je ne puis guère le porter, fit le visiteur en souriant. Je ne vois pas pourquoi. J'ai d'ailleurs de plus belles dentelles que cela pour mon usage personnel. Les yeux de Rosier refirent lentement le tour de la pièce. Vous avez de magnifiques choses. Oui, mais je les déteste. Voudriez-vous vous en débarrasser? Demanda vivement le jeune homme. Non, il est excellent d'avoir quelque chose à détester. C'est une occupation. « Moi, j'aime mes curiosités, dit Monsieur Rosier, que cet aveu fit rougir, mais ce n'est ni d'elle ni des vôtres que je suis venu vous parler. » Il hésita un moment puis reprit avec un renouveau de douceur. « Je m'intéresse plus à Miss Osmond qu'à tous les bibelots de l'Europe. » Madame Merle ouvrit de grands yeux. « C'est pour me dire cela que vous êtes ici ? Je suis venu vous demander votre avis. » Elle le regarda avec un froncement de sourcils amical et se caressa le menton de sa grande main blanche. Un amoureux n'a pas l'habitude de demander des conseils? Pourquoi pas, s'il se trouve dans une situation difficile? C'est souvent le cas des hommes épris. Je puis le dire, j'ai déjà été amoureux, mais jamais si complètement que cette fois, je vous l'affirme. J'aimerais particulièrement savoir ce que vous augurez de mes chances. J'ai peur de ne pas être pour M. Osmond une véritable pièce de collection. » Vous voudriez que j'intervienne ? Demanda Madame Merle, qui avait croisé ses beaux bras et dont la bouche se tirait à gauche. Si vous pouviez dire un mot en ma faveur, je vous en saurais gré. Il est inutile que je tourmente Miss Osmond si je n'ai pas de bonnes raisons de compter sur le consentement de son père. Vous êtes très discret, et cela vous fait honneur. Mais vous semblez, avec quelque désinvolture, tenir pour assuré que j'attache, moi, grand prix à votre personne. « Vous m'avez témoigné beaucoup de bienveillance, dit le jeune homme. C'est ce qui m'a encouragé à venir vous trouver. » « Je montre toujours de la bienveillance aux gens qui possèdent du bon Louis XIV. Cela devient rare de nos jours, et personne ne saurait dire ce que cela peut rapporter. » Et le coin gauche de la bouche de Madame Merle souligna le sens de cette facétie. Cette impression ne désarma pourtant pas le jeune homme, qui reprit avec une insistance un peu hardie. « Ah, je m'imaginais que vous m'aimiez pour moi-même. » « Vous me plaisez beaucoup, mais nous n'allons pas faire de psychologie, si vous le voulez bien. Excusez-moi de me montrer un peu protectrice. Tout en vous tenant pour un garçon parfaitement bien élevé, il faut que je vous avoue que je ne suis pas chargée de marier Pensée Osmond. Je ne le croyais pas non plus, seulement je vous voyais dans l'intimité de sa famille, et j'en concluais que vous pourriez avoir quelque influence auprès d'elle. » Madame Merle réfléchit. « Qu'entendez-vous par « sa famille »? Oh, son père est, comment dit-on en anglais ?» Sa belle-mère ? Monsieur Osmond est son père, c'est certain, bien qu'il soit difficile de voir en Mrs. Osmond un membre de la famille. Mrs. Osmond n'a rien à voir avec le mariage de Pensée. J'en suis fâchée, dit Rosier, avec un soupir de regret sincère. Je crois que Mrs. Osmond me verrait sans défaveur. C'est très probable, s'il en va autrement de son mari. Il haussa les sourcils. Est-ce qu'elle se plairait à le contredire ? En tout, ils ont des façons de penser diamétralement opposées. « Eh bien, dit Rosier, je le regrette, mais ce n'est pas mon affaire. Elle aime beaucoup Pensée. Oui, beaucoup. Et Pensée a pour elle une grande affection. Elle m'a dit l'aimer comme si elle était sa vraie mère. » « Il faut que vous ayez eu des entretiens bien intimes avec la pauvre petite, dit Madame Merle. Lui avez-vous fait part de vos sentiments ?»« Jamais !» se récria Rosier, en levant une main exquisément gantée. « Jamais, avant de m'être assurée de ceux des parents. » « Vous attendez toujours d'être fixée ?» « Voilà d'excellents principes, vous vous pliez aux convenances. »« Je crois que vous vous moquez de moi, » murmura le jeune homme en se renversant contre le dossier du fauteuil et en tortillant sa petite moustache. « Je ne m'y attendais pas de votre part, Madame Merle. » Elle hocha paisiblement la tête, en femme qui voit les choses telles qu'elles sont. « Vous ne me rendez pas justice. Je trouve que votre conduite est d'excellent goût et que vous n'auriez su en adopter de meilleures. Oui, voilà mon opinion. » « Je n'ai pas voulu l'agiter, rien que pour l'agiter. Je l'aime trop pour cela, » expliqua Ned Rosier. « Je suis bien aise en somme que vous m'ayez prévenu, » reprit Madame Merle. « Laissez-moi un peu faire, je pourrais sans doute vous aider. » »« Je disais bien que vous étiez la personne à qui m'adresser, » s'écria le jeune homme avec un accent de triomphe. « Vous êtes fort perspicace, » riposta plus sèchement Madame Merle. « Si je dis que je puis vous aider, c'est à la condition que votre cause soit bonne. Voyons un peu si elle l'est. » « Je suis un parti acceptable, » fit Rosier avec chaleur. « Je ne prétendrai pas être sans défaut, mais je puis affirmer que je n'ai pas de vice. Tout cela est négatif et dépend aussi de ce qu'on appelle vice. Voyons le côté positif. Où sont vos vertus? Que possédez-vous, en dehors de votre dentelle espagnole et de vos tasses de Dresde? J'ai une petite fortune honnête, quelque 40 000 francs par an. Avec le talent que j'ai pour m'arranger, nous pourrions vivre magnifiquement sur ce revenu. » « Magnifiquement, non. » « Suffisamment, oui, et cela même dépend de l'endroit que vous habiteriez. Ce serait à Paris, je m'y engagerais sans crainte. » La bouche de Madame Merle s'éleva vers la gauche. « Ce ne serait pas fastueux, vous seriez obligé de mettre les tasses en service, et on les casserait. Nous n'avons pas besoin de faste, il me suffirait que Miss Osmond n'ait que de jolies choses. Quand on est jolie comme elle, on peut se permettre la plus modeste défaillance. Elle ne devrait jamais porter que de la mousseline, sans broderie, » dit Rosier d'un ton pensif. Vous ne lui laisseriez même pas les broderies. Elle vous saurait certainement gré de cette opinion. C'est la plus sage, je vous l'assure, et je suis convaincue qu'elle s'y rangerait. Elle comprend ce genre d'idées. C'est ce qui me plaît en elle. C'est une très charmante enfant, très ordonnée et extrêmement gracieuse. Mais son père, à mon avis, ne doit rien pouvoir lui donner. Rosier ne broncha pas. Je ne lui demande rien, mais j'ai le droit de remarquer tout de même qu'il vit en homme riche. L'argent appartient à sa femme, elle lui a apporté une grosse fortune. Eh bien alors, Mrs. Osmond, qui aime tant sa belle-fille, peut faire quelque chose. « Pour un jeune homme féru d'amour, vous ne gardez pas les yeux dans vos poches, » s'écria Madame Merle en riant. « Je n'ai nul mépris pour la dot. Je puis m'en passer tout en faisant cas. » « Mrs. Osmond préférera sans doute garder son argent pour ses propres enfants, » reprit Madame Merle. « Ses enfants ? Elle n'en a pas. Elle peut encore en avoir. Elle a eu un pauvre petit garçon qui est mort voici 2 ans, 6 mois après sa naissance. Il pourrait en venir d'autres. » « Je le souhaite, si elle doit en être heureuse, c'est une femme admirable. »« Il y a beaucoup à dire sur son compte, » admit avec calme Madame Merle. « Admirable, si vous voulez. En attendant, nous n'avons pas absolument établi que vous soyez un parti. » L'absence de vice ne peut guère passer pour une source de revenus. « Excusez-moi, il me semble que c'en est une, » riposta Rosier avec beaucoup d'à-propos. « Vous feriez un couple charmant pour vivre de votre innocence. Je crois que vous m'appréciez mal. » « Vous n'êtes pas si innocent que cela. »« Sérieusement, » fit Madame Merle, « un revenu de 40 000 francs et un bon caractère forment une combinaison qui mérite considération. Je ne dis pas qu'il y ait de quoi se précipiter, mais on pourrait trouver des propositions pires. Seulement, M. Osmond inclinera probablement à croire qu'il peut prétendre à mieux. »« Lui, c'est possible, mais sa fille, peut-elle faire mieux que d'épouser l'homme qu'elle aime ? Car elle-même, vous savez, » ajouta vivement Rosier. « Elle vous aime, je le sais. » « Ah !» s'écria le jeune homme, « je disais bien que vous étiez la seule personne à consulter. »« Seulement je ne vois pas d'où vous le savez, si vous ne le lui avez pas demandé, » poursuivit Madame Merle. « En pareille matière, est-il besoin de questions et de réponses ? Comme vous le dites, nous sommes un couple innocent. Et vous, comment le savez-vous ? Moi qui ne suis pas innocente, à force de diplomatie. Remettez-vous-en à moi, je verrai ce que vous pouvez espérer. » Rosier se leva et se mit à lisser son chapeau. « Vous dites cela bien froidement. » « Ne vous contentez pas de voir où en sont les choses, tâchez de les faire tourner à notre satisfaction. »« Je ferai de mon mieux, je tirerai le meilleur parti possible de vos avantages. »« Grand merci. En attendant, je dirai un mot à Mrs. Osmond. »« Gardez-vous-en bien. » Madame Merle avait bondi sur ses pieds. « Ne la mêlez pas à l'affaire ou vous allez tout gâter. » Rosier baissa les yeux sur son chapeau. Il se demandait si son hôtesse était bien, somme toute, la meilleure personne à consulter. « Je ne comprends pas. Je suis un vieil ami de Mrs. Osmond, et il me semble que mon succès lui ferait plaisir. Soyez aussi ami qu'il vous plaît. Plus elle aura de vieux amis, mieux cela vaudra pour elle, car elle ne s'entend pas trop bien avec certains de nouveaux. Mais ne lui demandez pas pour l'instant de prendre votre cause en main. Son mari a peut-être d'autres projets, et comme je veux du bien à Mrs. Osmond, je vous adjure de ne pas multiplier entre eux les motifs de dissentiment. » L'inquiétude se peignit sur le visage du pauvre Rosier. La demande en mariage de Pensée Osmond promettait d'être une affaire plus compliquée que ne l'eût admis son goût des faciles aventures. Pourtant, le parfait bon sens caché chez lui sous une surface qui faisait songer au service d'apparat d'un maître de maison méticuleux vint à son aide. « Je ne vois pas ce qui m'oblige à tant ménager, Monsieur Osmond, » s'écria-t-il. « Lui, non, c'est elle à qui je pense. Vous dites que vous êtes un de ses vieux amis, voudriez-vous la faire souffrir ?» Pour rien au monde. Alors soyez très prudent et ne bougez pas avant que j'aie fait quelques sondages. Ne pas bouger, chère Madame Merle. Rappelez-vous que je suis amoureux. Oh, vous ne vous consumerez pas tout à fait. Pourquoi êtes-vous venu me trouver si vous ne devez pas écouter mes conseils ? Vous êtes la bonté même. Je serai très sage, promit le jeune homme. Mais j'ai peur que Monsieur Osmond ne soit un peu dur, ajouta-t-il de sa voix douce, en se dirigeant vers la porte. Madame Merle eut un rire bref. On l'a déjà dit. Et sa femme n'est pas facile non plus. « C'est une femme admirable, » répéta Ned Rosier, en manière d'adieu. Il était décidé à rester un modèle de discrétion, mais il ne voyait rien dans les promesses faites à Madame Merle qui put l'empêcher de se réchauffer de temps en temps le cœur par une visite à la maison de Miss Osmond. Il réfléchissait sans cesse à ce que lui avait dit sa conseillère et ruminait l'impression que lui avait produite son accent quelque peu circonspect. Il était allé à elle de confiance, comme on dit à Paris, mais il était possible que sa démarche eût été un peu précipitée. Il lui paraissait difficile de s'accuser de témérité, car il n'avait que rarement encouru pareil reproche. Mais force lui était d'admettre qu'il ne connaissait Madame Merle que depuis un mois, et que le fait de la trouver charmante n'était pas, à tout prendre, une raison suffisante pour supposer qu'elle dût souhaiter de pousser Pensée Osmond dans ses bras, quelque gracieusement disposés que puissent être ses bras pour le recevoir. Elle lui avait, à coup sûr, marqué de la bienveillance et semblait fort considérée dans la maison des Osmond, où Rosier s'était plus d'une fois demandé comment elle parvenait si bien à se trouver sans familiarité sur un pied d'intimité parfaite. Peut-être au surplus s'était-il exagéré les bonnes dispositions de la dame à son endroit. Il n'y avait aucune raison plausible pour qu'elle prît de la peine en son nom. Une femme charmante est toujours charmante pour tout le monde, et Rosier se sentait un peu nigaud de s'être adressé à elle en se figurant qu'elle l'avait distinguée. Il était bien vraisemblable, malgré son ton persifleur, qu'elle ne pensait guère effectivement qu'à ses bibelots en lui parlant. Avait-elle compté qu'il pût lui offrir deux ou trois des bijoux de sa collection? Si elle voulait l'aider à épouser Miss Osmonde, c'est tout son petit musée dont il lui ferait l'offrande. Seulement, on ne pouvait guère lui proposer tout de go une offre qui ferait l'effet d'un appât un peu grossier. Mais il serait habile de le lui laisser entendre. C'est en ruminant ses pensées qu'il retourna chez Mrs. Osmonde. Mrs. Osmonde avait un jour et recevait le jeudi soir, si bien que cette visite était conforme aux exigences de la plus stricte politesse. L'objet de la sage passion de M. Rosier habitait en plein cœur de Rome aux alentours du palais Farnèse, une haute maison massive et sombre qui surplombait une piazzetta ensoleillée. La petite pensée vivait dans un palais à la romaine, qui faisait dans l'imagination timorée du pauvre Rosier figure de prison. Il tenait pour fâcheux présage que la jeune fille dont il désirait la main et dont il doutait d'être assez adroit pour gagner les bonnes grâces d'un père difficile fût enfermée dans une espèce de forteresse domestique, bâtisse au vieux nom romain rébarbatif, qui sentait la ruine historique, les actes d'astuce et de violence, qui était citée dans les guides et explorée par les touristes déçus et déprimés par une visite hâtive, qui possédait des fresques de Caravaggio sur un piano mobile et une rangée de statues mutilées et d'urnes poussiéreuses dans la loggia à noble voûte, perchée au-dessus de la cour humide où une fontaine gouttait sous une niche moussue. Une moindre agitation d'esprit lui aurait permis de rendre justice au Palazzo Rocanera et de partager le sentiment de Mrs. Osmonde qui lui avait avoué un jour que seul l'amour de la couleur locale avait, lors de leur installation à Rome, dicté le choix de cette habitation à son mari et à elle. Elle débordait en effet de couleurs locales, et bien que moins compétent en matière d'architecture qu'en porcelaine de Limoges, Rosier savait voir que les proportions des fenêtres et les détails même de la corniche avaient tout à fait grand air. Mais il était tourmenté par la conviction qu'en des époques pittoresques, des jeunes filles avaient été claustrées dans la sombre demeure, à l'écart de leur tendre amour, et contraintes à d'odieux mariages sous la menace du couvent. Il y avait pourtant un fait, auquel il rendait toujours justice lorsqu'il se trouvait dans les riches et chauds salons de réception de Mrs. Osmonde, qui était situé au second étage. Il admirait l'aptitude des propriétaires à reconnaître les belles choses. C'était le goût d'Osmonde et non de sa femme, comme elle l'avait déclaré à Rosier lors de leur première visite. Et après s'être demandé pendant un quart d'heure si leur curiosité française n'était pas supérieure à celle de son petit musée de Paris, le jeune homme avait dû conclure par l'affirmative et surmonter sa jalousie de façon assez courtoise pour exprimer à son hôtesse l'admiration sans mélange que lui inspiraient ses trésors. Il apprit de Mrs. Osmonde que son mari s'était constitué une belle collection avant leur mariage, et que, s'il y ajoutait quelques belles pièces depuis 3 ans, il avait fait ses trouvailles les plus précieuses à une époque où il ne pouvait pas encore se prévaloir de la vie de sa femme. Rosier donna pour son propre usage une traduction libre à cette information. Au lieu d'avis, mettons argent, se dit-il, et le fait que Gilbert Osmonde se fût procuré ses plus beaux trésors au temps de sa pauvreté confirma sa théorie la plus chère, qu'un collectionneur a le droit d'être sans fortune pourvu qu'il ait de la patience. En général, quand Rosier se présentait le jeudi soir, son premier regard allait au mur du salon, où 3 ou 4 objets excitaient en lui une admiration mêlée de convoitise. Mais depuis son entretien avec Madame Merle, il avait compris l'extrême gravité de la situation, et en entrant ce soir-là dans la pièce, il se mit à chercher des yeux la fille de la maison avec autant de vivacité que pouvait s'en permettre un jeune homme dont le sourire au seuil d'une porte semblait tenir pour chose admise toutes les aises et toutes les facilités.